capitaine, mon capitaine.
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous. Allons, assis. Dernier avertissement, Anderson.
Oh, capitaine, mon capitaine.
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir. Assis. Tous, je vous ordonne de vous asseoir.
Libre Radio, la station debout. www.libradio.org.
Alors, ça tombe bien, ce jingle, parce que, donc on l'a emprunté, comme Jérôme, tu le sais, au film Le sac des potes disparus, et c'est la rentrée. Et toi-même, tu es également prof, enseignant d'art.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, bienvenue à toi, déjà.
Merci.
Voilà, nous allons parler de plusieurs choses, et notamment de cette histoire de bac mobile. Mm-hmm. Hein, nous nous étions rencontrés, ça c'est pour les auditrices et auditeurs, dans le cadre de la Big Biennale à Plein Palais, il y a de cela un mois et demi environ. Et pourquoi tu es intervenu à ce moment-là? Raconte-nous.
Alors, c'était à la suite, en fait. Initialement, j'avais une expo personnelle à l'espace Kugler. Et puis, les deux galéristes qui gèrent l'espace Kugler m'avaient proposé de participer à Divine Comédie, puisque mes bacs étant mobiles, fallait pouvoir expérimenter leur mobilité.
Voilà, alors maintenant, il nous faut, comme on est à la radio, il va nous falloir décrire un peu ces bacs.
Tout à fait, bien entendu.
Alors,
c'est des bacs de permaculture, mm-hmm. en fait, qui ont une forme. En fait, les trois bacs forment un cercle. Et donc, c'est les trois tranches égales du cercle, si tu veux. Mm-hmm. Et puis, dans chacune de ces tranches, peu à peu, elles se sont nommées pendant l'exposition. Il y avait eu un atelier de peinture qui les avait intitulées. Et donc elle s'appelle Perma, Love et Culture respectivement. Mmh. Et puis la première, donc Perma, c'est une partie de nature sauvage comestible qu'on est allé chercher sur les bords du Rhône et qu'on a sélectionné et qui vit sa vie toute seule à peu près. Je me suis quand même amusé à mettre il y avait des épinards sauvages que j'avais plantés par ailleurs. Puis comme ils s'appelaient sauvages, je me suis dit qu'ils n'allaient pas troubler l'harmonie de ce bac-là. Et puis ce bac-là s'appelle Perma parce que c'était ça représente la consommation. Alors il y a un petit clin d'œil ironique évidemment parce que c'est dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller au supermarché pour apprendre à consommer. Par contre, il faut apprendre à connaître la nature pour pouvoir savoir ce qu'on peut manger dans la nature. Il y a pas mal de choses qu'on peut manger.
Pardon, continue.
Le deuxième bac, mm-hmm. qui s'appelle Love, donc ça reprend en fait les trois bacs, j'ai oublié de préciser ça, donc les trois bacs reprennent les trois entrées de la permaculture. L'un étant justement, je viens de le dire, la consommation, l'autre étant l'attention qu'on va porter au corps humain et à l'humain en général et dans les rapports humains. Et donc, ce deuxième bac est constitué uniquement de plantes qui sont aromatiques et médicinales et qui peuvent servir à faire autant des tisanes, des crèmes, des onguents, etc., etc. Je ne sais pas si je vais réussir à faire tous ces éléments-là, mais l'intention est quand même d'en expérimenter un maximum. J'apprends, grâce à ces bacs-là, à faire toutes ces choses-là. Et puis le troisième, elle s'appelle Culture parce que là c'est un petit peu la partie plus classique et plus connue de la permaculture, qui est l'association de plantes où tu vas associer des plantes pour qu'elles s'aident à mieux pousser. Et voilà. Mais en même temps, évidemment, à l'intérieur des bacs, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a été fait à l'intérieur. D'une part parce que pour les alléger, j'avais mis de l'argile expansée. Mm-hmm. Ensuite, il y avait du bidim qui est une couche qui empêche justement la terre de passer au-delà. Il y avait des bois putréfiés, il y avait des orties fraîches. Et puis ensuite, il y avait un mélange de terre entre du compost et de la terre organique.
D'accord.
Avant de faire les plantations. Parce qu'évidemment, les plantations étaient... on poussait en serre dans les serres de Beaulieu avant d'être transféré dans les bacs.
C'était donc des plantons que tu as, que tu as transférés, que tu as repiqués.
Exactement.
Ouais. Dis-moi, alors j'ai plein de questions qui vont arriver, mais la première, pour de nouveau illustrer un peu ce projet, qu'en est-il en termes de volume et de poids?
Alors le poids, disons que c'est un rayon d'un mètre pour chacun des bacs. Et ensuite, si tu suis la circonférence, ça fait à peu près 1,60 m chacun. Ils peuvent être disposés de différentes manières. Ils sont disposés en cercle habituellement avec un espace pour pouvoir passer entre les bacs. Ils forment aussi, il y avait aussi un clin d'œil parce qu'en fait, ils forment, la forme, elle représente le symbole Peace and Love.
Voilà, exactement. Et donc, ils sont montés sur roulette.
Ils sont montés sur roulette, exactement.
Ouais. En termes de poids, chaque tranche de pizza,
ben, disons qu'à l'estimation, c'est à peu près 400 kilos.
Ouais. Et donc, il faut savoir que ça s'est déplacé. À ce moment-là, vous les avez déplacés. Il y a eu un petit incident au moment où le déplacement s'est fait de l'usine Kugler. Donc, qui se trouve à la pointe de la jonction jusqu'à la Big Biennale à plein palais.
Effectivement, c'était le seul moment où je n'avais pas prévu un plan B. J'avais prévu des plans B sur à peu près toutes les choses, toutes les étapes de travail. Il y en avait une où je n'avais pas pu prévoir de plan B. Il fallait juste être prudent. On l'a été plus ou moins. Pour ma part, en fait, le bac que j'ai poussé et que j'ai même poussé avec des gens qui sont venus m'aider, qui étaient sur le trottoir et qui tout d'un coup disaient « je peux vous aider » et puis voilà. Est arrivé à bon port. Par contre, les deux autres ont perdu une ou deux roulettes et on a dû les déplacer avec des transpalettes, ce qui a posé, a fait que j'ai passé la Big Biennale sous mes bacs à réparer les roulettes. Et puis, une bonne partie quand même. Et les journées étaient assez chaudes, c'était une période un peu caniculaire. Et puis l'autre chose qui était un peu plus embêtante, c'est qu'on n'a pas pu faire la performance musicale qu'on voulait faire, qui était prévue d'être réalisée à la suite du déplacement pour les bacs. Mmh. Et donc voilà, je veux dire, les musiciens ont attendu longuement. De toute façon, avec les transpalettes, c'était plutôt du tout la même chose.
Bien sûr.
Parce que l'idée de la performance était de danser avec les bacs, donc, et de montrer justement les différentes dispositions qu'on pouvait faire avec ces bacs.
Ouais. D'ores et déjà, y a-t-il un site internet sur lequel les personnes peuvent aller pour retrouver ton travail à toi et peut-être pourquoi pas des illustrations de.
Alors pour l'instant, c'est plutôt sur mon Facebook qu'il y a certaines choses qui ont été mises ou éventuellement sur celui de l'espace Kugler. Mon site internet est un peu en panne, je suis en train de le relancer actuellement, mais d'accord. Voilà, j'ai commencé par d'autres choses. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je n'avais pas touché. Vu mon activité, disons, concrète, mon activité virtuelle a été un peu mise de côté.
D'accord. Alors, dis-moi.
Mais je peux toujours le dire.
Oui, hein, tout à fait.
C'est ige.bxel. C'est en fait l'anagramme de mon nom.
L'anagramme de ton nom, très bien.
Plus ou moins. Enfin,
plus ou moins,
ouais. Ouais,
on mettra de toute façon le lien également en dessous du podcast. Dis-moi, tu as parlé tout à l'heure de ce mélange. Il a fallu réfléchir à ce que l'on allait mettre pour que les plantes puissent tenir et s'étendre dans ces bacs.
Ouais.
Il a fallu réfléchir à la composition du terrain.
Alors ouais, c'est clair. À la fois la profondeur, il y avait différents paramètres. Il y avait le fait qu'ils allaient être mobiles, donc qu'il fallait des roulettes qui résistent. Il n'en fallait pas trop non plus. L'idéal aurait été d'avoir 3 roulettes, parce que sur 3 pieds, ça tient mieux que sur 4. Enfin, si tu as expérimenté des tabourets sur 4 ou 3 pieds, tu vois.
Ouais, assez tout à vite, fait. Ils basculent sur 4 pieds. Ouais,
exactement. Mais finalement, on a quand même mis 4 roulettes, mais qui sont pas en diagonale et qui ont dû être déplacées d'ailleurs légèrement du fait des dégâts qu'on a eus.
Bien sûr.
Initialement, on m'avait proposé qu'il suffisait de mettre des vis, mais je pense que si je devais le refaire, on mettrait des vis avec des boulons. De l'autre côté, comme ça, la roulette résisterait peut-être mieux.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des roulettes qui ont des freins. Il y en a 2 sur 4 qui ont des freins. Et elles ne sont pas directement sous l'axe. Donc, en fait, quand elles touchent quelque chose, elles ont un petit peu un ballon, si tu veux, qui peut les fragiliser.
Ouais.
Mais il fallait bien quand même avoir des freins. Quoi,
ouais, c'est ça.
Parce que les gens ne les bougent pas quand il ne faut pas les bouger.
Tu t'es entouré de personnes qui ont pu te conseiller parce qu'il y a un boulot de botaniste, il y a un boulot de menuisier, plus de l'artiste, je veux dire. Hein.
Alors complètement. L'idée de la permaculture, elle était là aussi. C'était de créer des liens, de créer des collaborations. Alors il y a eu plein de personnes qui m'ont aidé. Il y a pour commencer, disons, pour la construction des bacs. La conception, je l'ai faite à peu près tout seul parce que j'ai une formation de permaculteur que j'ai faite en Espagne, qui n'est pas, complète, parce que c'est jamais complet, mais disons que, ayant un travail de land art depuis longtemps, ou d'art in situ, et travaillant beaucoup avec la nature, j'ai une assez grande sensibilité, j'ai déjà fait un jardin, j'ai toujours eu une fibre bio, etc. Et j'ai lu pas mal de choses. Et puis, lors de ce séjour en Espagne, j'ai vraiment... à l'époque, j'étais allé planter des tournesols un peu partout. J'étais un peu Monsieur Tournesol qui répandait du soleil un peu. Enfin, il y en a pourtant assez à Barcelone, mais enfin... c'est un petit peu ça. Donc là, j'ai beaucoup travaillé dans des jardins, hormis la formation que j'ai faite. Et j'ai appris pas mal de choses au contact direct de la terre. D'accord. Parce que je crois pas à la... Enfin, tu peux aller chercher dans les bouquins, mais je crois qu'il faut aller mettre la main à la pâte et donc la main dans la terre. Et ce que j'ai pas mal fait.
Ok. Est-ce à dire que pour toi, l'art et la pédagogie font bon ménage? Parce qu'il y a un message, certes, mais il y a également le fait de dire on transmet un savoir par ce biais-là.
Alors, dans mon cas, ouais, je pense. C'est rigolo que tu poses cette question parce qu'en fait, je vais participer à un colloque à la Haute École Pédagogique d'ici une semaine qui s'appelle Enseignant Artiste, où j'ai été intervenir. Alors là, en tant qu'enseignant, pour le coup, ouais. Dans une école enfantine, avec une classe enfantine. Et on a réalisé des travaux de land art avec ses petits enfants. Et puis le thème, c'est donc enseignant artiste duo duel point d'interrogation.
Okay.
Et pour moi, il y a pas de duel. Ouais. Il y a un duo, parce qu'à partir du moment où tu as décidé de collaborer, je vois bien où ils veulent me montrer quel est le duo par rapport au fait que l'artiste n'est pas forcément un pédagogue et tout. Mais moi, ayant les deux casquettes, j'allie les deux. Il y a d'ailleurs des gens qui me disent, mais dis donc, quand tu fais tes ateliers, des fois, on ne différencie pas quel est ton propre travail et le travail que tu fais avec les gens. Puis j'avais envie de dire que... c'est presque une jolie remarque parce
carrément.
Que je me dis que alors ça veut dire que je réussis à faire que les gens peuvent réussir à faire un travail réellement artistique.
Absolument. Donc toi-même justement tu te détermines comment la proportion entre l'artiste et l'enseignant en toi sont-elles à égalité 50%, y a-t-il quand même une qui prime un petit peu sur l'autre ou celles-ci s'entremêlent-elles de manière organique que l'on ne puisse pas dire un pourcentage?
Non, je dirais que y a un pourcentage tout simple de la vie, quoi. J'enseigne à 90%, donc voilà. Mais c'est plus par nécessité. C'est vrai que si je pouvais faire exactement le contraire, ça m'irait bien aussi. Maintenant, j'aime bien mon travail d'enseignant. Maintenant, il tient compte d'un programme, il tient compte d'un certain nombre de choses qui te laissent une liberté très relative. Et en lien avec le land art, aller avec une classe de 20 et quelques élèves dans la nature, tu peux, mais tu ne peux pas passer tout ton temps à faire ça. D'ailleurs, une des possibilités serait que la station suivante de mes bacs, puisqu'ils ne pourront pas rester à Kugler, serait éventuellement mon école.
Alors, j'allais y venir. Est-ce que tes élèves ont déjà vu ou eu vent du projet de bac? Et quelle est la postérité, justement, de ce bac qui siège actuellement encore à Kugler, mais pas pour longtemps?
Non. En fait, initialement, tout au début, j'avais contacté Olivier Krum, qui était un architecte de Soubéran, la coopérative Équilibre à Soubéran. Oui. Et l'ayant côtoyé lors des chantiers participatifs là-bas, où on construisait des murs en terre, etc. et tout, qui fait aussi la bioconstruction, fait partie de la permaculture, etc. J'en avais fait, donc ça m'intéressait de refaire.
Équilibre, on dit juste, c'est une coopérative d'habitation.
Voilà, c'est une coopérative d'habitation avec une charte qui implique justement que les membres ne vont pas avoir une voiture personnelle, qui ont une sensibilité... bio très marqué.
Tout à fait. Ouais.
Et donc je l'avais contacté en lui disant, moi j'aurais trouvé assez sympa que mes bacs ensuite puissent, ils sont mobiles, j'aimerais qu'ils se baladent et j'aimerais qu'ils puissent aller dans les quartiers. En fait, moi, peu à peu, je ne sais pas si c'est dès le départ, mais assez vite quand j'étais en train d'écrire le projet, qu'ils soient dans une galerie, c'est un peu peu.
Ouais, enfin, je trouve aussi que ça contenait trop.
Voilà. Moi, j'aimerais un développement. Alors, quand tu parles justement d'un développement, j'aimerais pouvoir en faire d'autres et qu'ils puissent aller dans d'autres quartiers. De là, le fait que je serai présent à Alternativa, puis que j'espère que ça aura des ouvertures pour pouvoir éventuellement les développer. Mmh. Il y a aussi les bains des Paquis qui seraient intéressants éventuellement à m'exposer. Mais alors après, pour amener les bacs aux bains des Paquis, je ne sais pas encore exactement comment on ferait. Mais voilà. Donc il y a comme ça toute une mais il y a eu beaucoup de gens qui te disent ah oui génial super etc. Soubéran par exemple il m'avait dit oui au départ et à la suite du processus démocratique de décisionnel finalement ils m'ont dit non mais relativement récemment il y a à peu près un mois j'ai appris qu'ils voulaient pas que les bacs viennent chez eux parce que c'était trop tôt. Enfin, je sais pas exactement quelle a été la vraie raison, mais enfin la raison qui m'a été donnée, c'est que c'était un peu trop tôt dans leur processus d'habitation, si tu veux.
D'accord.
Et que ça allait occuper trop d'espace. Alors qu'ils sont mobiles, ça me paraissait un petit peu. Oui. Enfin voilà, c'est leur la raison qu'ils m'ont donnée.
Il y a un travail de maintenance qui est compliqué pour maintenir ces bacs. La flore de ces bacs.
Eh bien,
l'arrosage.
Alors, l'arrosage se fait par. Initialement, c'était des bouteilles qui sont retournées et qui ont un bouchon qui est en argile et donc qui est poreux.
Et génial.
Alors, il fait du goutte à goutte. Maintenant, il faut juste voir que l'été était caniculaire à plusieurs reprises. Donc, ça nécessitait un arrosage additionnel.
Ok.
Maintenant, c'est vrai que les personnes qui l'arrosaient, moi je suis parti, j'ai quand même pu partir en vacances parce que c'est vrai que ça m'a occupé quand même une bonne partie depuis mars, à partir du moment où j'ai commencé la construction et à partir de là, j'ai un jardin mobile qui est là, que j'aimerais bien qu'il soit plus partagé, mais voilà, je veux dire, les gens te disent oui, mais après, c'est pas forcément dans les fêtes. Les gens ont été super acculés pour un certain nombre de personnes. Ils ont arrosé effectivement les bacs, mais ils les arrosaient abondamment. Moi, je les arroserais moins parce que je pense que la plante a aussi besoin de pas être. C'est un petit peu comme un bébé. Je veux dire, plus tu lui donnes à manger, plus il va manger. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut peut-être attendre jusqu'au moment où il va te demander. Mmh. Et de voir, toi, ce qui est vraiment nécessaire. Et c'est vrai que pendant un bon moment, les bouteilles ont suffi, tant qu'il n'y avait pas la canicule. À partir du moment où il y a l'été et la canicule, là, il y avait vraiment besoin d'arroser fréquemment. Ouais. Mais ce n'est pas seulement l'arrosage. Je veux dire, il y a un élagage, il y a le fait de mettre... au départ, il y avait du roseau de Chine. J'avais choisi le roseau de Chine que je mettais comme une couche qui allait protéger la terre et qui allait en fait garder l'humidité de la terre, qui... peut contribuer autant que d'ailleurs les bouteilles ou l'arrosage à faire que les plantes que la terre garde un peu d'humidité. Il y avait dans les bacs, enfin il y a toujours j'espère, il y avait toute une série de vers de terre que j'avais été chercher dans la forêt. Donc il y avait toutes ces choses là qui contribuaient à faire qu'il y avait un arrosage plus minimal.
D'accord.
Et puis je pense que les plantes peuvent essayer de s'adapter un peu. C'est-à-dire, il y a un célèbre permaculteur, je me rappelle pas son nom, mais c'est égal. C'est surtout ce qu'il fait qui est intéressant. Il plante des tomates et il les plante dans le cagnard de l'Ardèche et il les met. En fait, il les arrose en les transplantant. Donc, il transplante les plantons dans de la terre qui est entre terre et pierre. Et il ne veut surtout pas enlever les pierres, parce qu'il dit justement que ça garde la fraîcheur.
Ruissellement, peut-être non.
Et puis, il n'arrose plus, après. Du tout.
Carrément plus.
Carrément plus. Alors, il pleut quand même en Ardèche, il ne pleut pas énormément, surtout que c'est plutôt dans le sud. Il est assez incroyable. Alors, il a fait de la sélection, il a travaillé avec un généticien, tout ce que tu veux, etc. Mais enfin, quand même... il arrive à le faire et quand tu le vois, il y a des vidéos sur internet, quand tu le vois, c'est ses enfants qui plantent les tomates, ils les plantent, t'as pas l'impression qu'ils font vraiment très attention.
Ouais.
Donc inspiré de ça, je me dis qu'on peut essayer de pas non plus, surtout qu'au départ avec les deux mélanges de terre que j'avais, il y avait une grande richesse de nutriments qui était présent. Les orties aussi, dans le fond, et d'elle, la putréfaction du bois aussi, allait amener pas mal d'azote. Et de,
c'est ça. Donc. Alors, justement, y a-t-il des plantes obligées et des plantes préférées? C'est-à-dire qu'y a-t-il des plantes que tu mets vraiment pour leur fonction et d'autres que tu mets parce que c'est vraiment un choix de ta part?
Alors, il y a un peu des deux.
Un peu des deux, ouais.
Il y avait des tomates que j'adore. Alors, j'ai mis des tomates. Mais les tomates, tu allais mettre du basilic à côté parce qu'il va aider la tomate. Tu allais mettre des carottes parce qu'ils allaient s'aider encore entre eux. Tu allais mettre des tournesols. Et j'étais obligé de mettre des tournesols après avoir planté ton tournesol autant ici à Genève qu'à Barcelone. Je pouvais pas les éviter. J'aime bien le tournesol, justement. Et je suis parti du tournesol parce que c'est une plante, en fait, que tu peux... En fait, finalement, tu consommes relativement peu de choses parce que les pipasses ne deviennent pas assez grandes, parce que les vraies pipasses que tu manges, c'est celles d'un tournesol qui est bien industriel, quoi, qui est bien grande, quoi, pour être mangée. Ouais. Enfin, tu peux manger, mais elles sont vraiment petites. Ouais. Puis moi, les pipasses ne m'intéressent pas spécialement. Je ne fais pas de l'huile de tournesol non plus.
Non plus.
Mais par contre, le tournesol fait parler. Parce qu'il est grand, parce qu'il est jaune, parce qu'il sort, parce qu'il tourne. Ouais, moi, j'aimais bien aussi parler du passage du temps. Et le tournesol, pour moi, est typiquement la plante qui peut parler de ça.
Très bien.
Autant quotidiennement que, je veux dire, dans son cycle.
On reviendra sur beaucoup de sujets lorsque l'on aura plus de temps, j'imagine, à Alternatiba. Mm-hmm. Ça nous permet d'annoncer ta présence, justement, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui écouteront ce podcast. Tu seras à Alternatiba le 16 septembre au Cropette, dans le parc des Cropettes.
Tout à fait.
Et là, les personnes donc, pourront venir te questionner. Mm-hmm. Alors, justement, quelles sont-elles ces questions qui, peut-être, ont déjà surgi au passage du bac? Y a-t-il eu des gens qui t'ont interpellé en te disant « Mais qu'est-ce donc tout ça, tout ça ?»
Ben, il y a souvent, en fait, il n'y a pas forcément énormément de questions. Alors, il y a des questions de jardinier, vraiment, énormément. Hein,
technique.
Je veux dire, ouais, voilà. Mais comment vous avez fait pour...
Ben oui, en même temps, il y a un défi technique.
Ah, mais complètement, ouais. Complètement. Moi, ça m'amène à être assez ouvert, à être sensible à ce qui se passe, si tu veux. À regarder, à observer, à noter. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui note de manière... Je suis assez intuitif.
Okay.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu des choses, mais je trouve que voilà, faut essayer d'un petit peu suivre un peu ce... Un petit peu justement comme quand tu crées. Mm-hmm. Tu suis un petit fil, tu ne sais pas exactement où il te mène, mais tu sais qu'il est juste parce que tu le sens.
Mm-hmm.
Et donc... Et donc, les questions des gens étaient de cet ordre-là, ou alors, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai expliqué ce que j'ai expliqué au début. Et puis, tout d'un coup, ils disaient, ah ouais, c'est pas n'importe comment, etc. Parce que c'est vrai que l'apparence, pas forcément de mes bacs en l'occurrence, mais d'un jardin permaculturel, peut être quelque chose un petit peu comme un grand fouillis puisque tu mélanges toute une série de plantes et qu'habituellement dans un jardin traditionnel potager on a tendance à bien tu vois on fait des carreaux,
on sectionne,
etc. Tandis que moi non, ça poussait en hauteur, c'est à dire qu'en fait il y avait différents stades de hauteur peu à peu. Mm-hmm. Les tournesols sont montés à 2 mètres, les tomates sont en train de remplacer les tournesols là maintenant. Enfin voilà.
Ben écoute, en tout cas, je te remercie pour cet entretien un petit peu écourté aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour d'une certaine manière, puisqu'on en revient à l'art et à la pédagogie.
Complètement.
On en termine un petit peu par
tout
ça.
Tout à fait.
J'ai encore une dernière question pour toi, et puis après, on se disant, de toute façon, à bientôt, puisqu'on se croisera à Alternatiba.
Avec plaisir.
As-tu une ou quelques plantes vraiment préférées, qui sont vraiment tes... soit une forme de... préférées, je veux dire, esthétiquement ou pratiquement, des choses comme ça. Y a-t-il pour toi une plante magique?
Alors, il y a l'amarante que je trouve incroyable. L'ai découverte, c'est une fleur que j'avais découverte en fait en allant travailler dans un jardin, dans les jardins familiaux bio, etc., aux Canaries. Et ils en avaient. Puis j'aurais dit, mais vous me passez des graines. Et puis ben, j'ai planté ces graines et puis elles sont sorties. Et maintenant, je suis en train de récupérer les graines. Puis je comprends pourquoi elles sont envahissantes. Parce qu'alors, une fleur, déjà la fleur est énorme. Elle crée comme un circuit qui fait comme un cerveau, si tu veux, etc.
Une
crête. Enfin, en espagnol, elle s'appelle cresta de gallo. Mm-hmm. Et donc, la crête du coq. Et alors, il y en a certaines, effectivement, qui font une crête de coq, mais d'autres qui, à la suite de la crête de coq, cette crête de coq, c'est comme si elle commençait à faire des circonvolutions sur elle-même. Elle crée tout un circuit qui devient... Si tu veux, ça finit. La forme générale, c'est un cercle ou une forme ovoïde. Mais à l'intérieur de ce cercle, tu as vraiment comme un réseau, comme quand tu regardes le cerveau. Et donc cette plante, pour moi, je la trouve assez magique, ouais, okay. Effectivement.
Mais après, elle a presque un aspect inquiétant. Enfin,
Non. Alors, elle est esthétiquement, elle est vraiment très belle parce qu'elle est dans les rouges, roses, oranges. Enfin, il y a plein de couleurs différentes. Même dans la même plante, les couleurs peuvent changer. Donc ouais, je la trouve très intéressante. C'est ma découverte actuelle, si tu veux.
Ok. Est-ce une plante qui est esthétiquement parfaite ou a-t-elle également d'autres vertus cachées, dissimulées ?
Alors, il y a des vertus de... Je ne les connais pas toutes pour l'instant. Je suis en train de les découvrir. Et il y en a une qui est d'être, au-delà d'être esthétiquement très belle, c'est d'être très bonne pour la peau. On utilise pour faire des crèmes, etc.
D'accord.
Donc je pense que je vais essayer d'en faire une.
L'amarante.
Oui.
Très bien. Jérôme, je te remercie beaucoup. Jérôme Bixel, artiste permaculteur, pour le moins, et encore d'autres casquettes, puisque tu les accumules là, également enseignant. Nous nous retrouverons donc à Alternatiba. Je te remercie pour le temps d'aujourd'hui que tu nous as consacré.
Merci à toi. C'était un plaisir d'être là.
Toujours en tout cas partagé. Bon après-midi à toi.
À toi aussi.
Merci. Ciao.
Ciao.
Voilà, nous on fait une petite pause musicale et juste derrière nous allons parler musique. C'est dans 2 minutes. Allez, on y va.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience.